Bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on poursuit les visites à nos voisins européens cette semaine et même cette journée de l'Europe. Alors après l'Italie, la Belgique et la Suède, nous nous rendons aujourd'hui en Espagne pour découvrir comment on célèbre les fêtes des mères et des pères de l'autre côté des Pyrénées. Ensuite, on va tester des masques de réalité virtuelle dans une résidence pour personnes âgées en Isère. Et enfin, on visite une exposition consacrée à ce qu'on ignore sur Pompéi. Ça se passe au musée de la Romanité à Nîmes. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce jeudi 9 mai. Bonjour Denis Farrou.
Beau programme, bonjour Frédéric Le Ternier, bonjour à tous.
C'est la journée de l'Europe et c'est aussi la journée d'action des fonctionnaires.
Ils dénoncent la réforme de la fonction publique avec une bonne centaine de défilés en France à l'appel des 9 syndicats, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Des syndicats qui reprennent du poil de la bête, Nicolas Ballu.
Oui, apparemment, mais ils restent coincés entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes.
La journée de l'Europe va passer par le témoignage d'un jeune Allemand né de la rencontre d'étudiants Erasmus.
Et par l'appel du président des Restos du Cœur aux candidats des élections européennes pour qu'ils défendent le plan de lutte contre la pauvreté. Bonjour Patrice Blanc.
Bonjour.
Combien d'Européens vivent dans une situation de pauvreté aujourd'hui ?
Ah, dans une situation de grande pauvreté, quelques 35 millions d'Européens, l'équivalent de la moitié de la population française.
À tout de suite. Alors Patrice Blanc, des Restos du Cœur dont France Bleu est partenaire.
À quelques mois de la sortie de l'Union Européenne, les Anglais sont très présents dans l'Europe du foot. La finale de la Ligue des Champions, ce sera Liverpool-Tottenham.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farrou sur France Bleu.
Et avant d'aller dans la rue à la rencontre de fonctionnaires, on s'arrête sur le quai de la gare avec les nouvelles cartes de réduction SNCF qui entrent en vigueur aujourd'hui.
Toutes les cartes sont vendues à un tarif unique de 49 euros pour les jeunes, les familles ou les seniors et elles ont toutes le même nom. La SNCF assure que ces changements se font au profit des voyageurs, Frédéric Dorel.
Les prix n'augmenteront pas, assure la SNCF, et ils seront plus simples à comprendre. Fini les tarifs loisirs et pro, par exemple. Il n'y aura plus désormais que trois choix dans les TGV et les intercités. Business, première ou seconde, plus les prums aussi, qui resteront les moins chers. Deuxième point, on pourra échanger tous nos billets et se les faire rembourser gratuitement. Sauf si on s'y prend trop tard. Un mois avant le départ, ce sera 5 euros de plus. 15 si c'est 3 jours avant. Enfin, les cartes de réduction seront toutes vendues moins chères, 49 euros. Et elles s'appelleront toutes avantages, jeunes, seniors, familles ou avantages week-end. Avantage aux voyageurs, selon la SNCF, ces 49 euros seront quasiment amortis dès le premier trajet, promet la compagnie.
On vérifiera avec l'achat de nos prochains billets. Merci Frédéric Dorel.
Si vous avez une carte de réduction actuellement, vous pouvez toujours l'utiliser, bien sûr, jusqu'à la fin de sa date de validité. Tous les détails sur notre site internet francebleu.fr.
Les fonctionnaires sont appelés à faire grève ce jeudi et à manifester partout en France contre le projet de loi qui est censé moderniser leur statut.
Avec 100 à 150 défilés annoncés, des perturbations notamment dans les écoles et les hôpitaux, Caroline, aide-soignante à l'hôpital à Nice, voit ses conditions de travail se dégrader.
Pour 24 patients, où vous êtes en principe 4 aides-soignantes dans la journée, on se retrouve à 2. Donc vous imaginez les toilettes, si vous êtes en chirurgie, les préparations de blocs à 2.
Pour un salaire de combien ?
Bon, moi je prends par exemple mon cas qui suis quand même depuis 20 ans dans la fonction publique, 1500 euros par mois.
C'est décourageant aujourd'hui ou pas d'aller travailler ?
Ben vous y allez surtout avec la boule au ventre. Ce que vous disiez, est-ce que je vais pouvoir faire correctement mon travail ? De plus pouvoir avoir du social avec le patient qui réclame, il est là, il est de le rassurer, de lui dire comment ça va se passer, son séjour, après son opération. On n'a plus le temps de faire tout ça.
Caroline, rencontrée à Nice par Maxime Bacquier dans une manifestation qui a rassemblé 700 à 800 personnes.
C'est la quatrième journée nationale d'action dans la fonction publique depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais c'est la première fois que le gouvernement se retrouve confronté à tous les syndicats.
Les 9 organisations de la fonction publique, est-ce que les syndicats se rebiffent, Nicolas Ballu, après avoir été un peu mis sous l'étain noir ces derniers temps ?
Oh, ils essayent de se rebiffer. Les revoilà, mais dans le cadre de conflits sociaux classiques. Aujourd'hui, la fonction publique, où ils sont très présents. Et puis, il y a les retraites, la réforme des retraites également. Emmanuel Macron, lui, les rappelle, notamment à travers cette conférence sociale qui ne dit pas son nom, la mobilisation générale pour l'emploi, une initiative qu'avait proposée Laurent Berger, le patron de la CFDT au tout début de la crise des Gilets jaunes, souvenez-vous. Mais le chef de l'État avait écarté cette proposition d'un revers de main.
Oui, et maintenant, le gouvernement parle de changement de méthode.
Oui, mais les sujets de cette mobilisation pour l'emploi n'était pas forcément les sujets des syndicats. Et ils ne sont plus seuls face au gouvernement, puisqu'il y a dans cette mobilisation les élus des territoires ou les associations. Une autre concertation de plusieurs mois s'achève cette semaine, celle sur les retraites. Et les partenaires sociaux disent qu'elle n'a pas servi à grand-chose. Emmanuel Macron a déjà décidé que la durée de cotisation augmenterait et qu'il y aurait une décote. Donc, attention au trompe-l'œil pour les syndicats qui ont également une autre crainte, et si les gilets jaunes arrivaient dans les entreprises. Vous le voyez, les syndicats cherchent encore leur place dans le nouveau monde.
Merci Nicolas Dalu.
13h05 sur France Bleu, la suite du Nord en France est européenne en cette journée de l'Europe avec les Restos du Cœur qui se battent pour conserver les financements actuels d'aide aux plus démunis. Et puis avec un programme qui réussit à faire la quasi-unanimité dans une union souvent décriée, c'est Erasmus, ces étudiants qui passent une année à étudier à l'étranger depuis la fin des années 80.
Certains ont fait des rencontres lors de leur séjour et même fondé une famille par la suite pour certains. Delphine Evenou, vous avez rencontré un bébé Erasmus devenu grand, c'est intéressant de voir quelle vision il a de l'Europe.
La mère de Nathan, allemande, est venue faire son Erasmus à Montpellier en 93, y a rencontré Pascal et le couple a eu 4 enfants, tous vivent aujourd'hui à Munich. Nathan, 19 ans, est l'aîné de ses bébés Erasmus.
Ça m'a aidé dans beaucoup de choses pour mon ouverture d'esprit, j'arrive beaucoup plus simplement à pouvoir voyager, je suis relativement à l'aise, à aller vers des personnes qui ne parlent pas vraiment ma langue. J'ai un regard en fait, je pense, un peu différent. J'essaye de prendre les bons côtés de chaque culture pour en faire le meilleur mélange possible.
Pour le jeune homme, les vraies différences culturelles se jouent à l'échelle mondiale, alors il se définit avant tout comme européen.
Dû au fait que nos frontières ne sont pas vraiment fermées en quelque sorte, je me sens libre d'aller dans le pays qui me chante et donc du coup j'ai la possibilité d'y vivre ou même peut-être d'y travailler ou juste d'y partir en vacances. Donc je me sens rarement vraiment étranger dans un pays membre de l'Union européenne.
Nathan observe aussi dubitatif la montée de l'euroscepticisme.
Bien sûr, je vois aussi très bien que l'Europe ou l'Union européenne ou la politique de l'Union européenne peut poser problème, mais sortir de l'Union européenne est, je pense, extrêmement dommage. Même si elle est peut-être dans une mauvaise passe, il faut absolument la soutenir et éventuellement la réformer pour la faire encore mieux.
Lui votera pour la première fois aux européennes le 26 mai avec enthousiasme.
Nathan, bébé Erasmus, franco-allemand, qui a 19 ans aujourd'hui. Merci pour cette rencontre, Delphine Evenou.
Les élections européennes, c'est le 26 mai. Pour nous donner un point de repère, c'est le jour de la fête des mères, dont on va parler tout à l'heure depuis l'Espagne.
Les Restos du Cœur ont choisi ce 9 mai, Journée de l'Europe, pour s'adresser aux candidats. Le président des Restos est avec nous. Patrice Blanc, vous appelez un plan européen de lutte contre la pauvreté, un plan d'aide aux plus démunis existe déjà. Vous craignez qu'il soit renié prochainement?
Oui, c'est notre crainte, puisque la Commission a fait une première prévision qui ferait passer le budget du Fonds européen d'assistance aux démunis de 3,8 milliards à 2 milliards. Alors c'est un budget pour 7 ans. Hein. C'est ça d'ailleurs l'intérêt du budget européen, c'est qu'il est pluriannuel.
Ce fonds représente, vous avez des chiffres très précis pour les restos, un repas sur 4 que vous fournissez.
Oui, absolument. Et nous ne sommes pas les seuls, hein, puisque la Croix-Rouge, le Secours Populaire et les banques alimentaires en France utilise l'argent qui arrive de l'Europe. Donc c'est un fonds très utile au niveau européen.
Patrice Blanc, est-ce qu'il y a les mêmes besoins dans les autres pays de l'Union européenne?
Oui, absolument. Nous ne sommes pas les seuls à utiliser ce fonds. Vous évoquiez l'Espagne tout à l'heure, c'est un gros utilisateur également. L'Italie, la Pologne, la Roumanie, les grands pays qui utilisent et qui ont besoin, puisque la pauvreté traverse les frontières.
Il y avait déjà une crainte de ces baisses de dons il y a quelques années. Et puis les associations françaises et européennes, j'imagine, vous allez nous le dire, comme le Secours Populaire, la Croix-Rouge ou la Fédération des banques alimentaires, ben, se sont fait entendre et elles ont obtenu gain de cause. Grâce à qui ? Grâce à vous, à l'État français, à l'appui de l'État ?
Oui, on a eu effectivement l'appui de l'État français à l'époque. Hein. C'était Bruno Le Maire qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, qui a défendu ce projet. Nous savons aujourd'hui que l'État français soutiendra ce fonds, c'est ce qui nous a été indiqué. Ce qu'il faut souligner, c'est l'importance du Parlement européen en termes budgétaires. Le Parlement européen vote ce budget. Et donc, selon la composition du Parlement européen, il y a un véritable enjeu. C'est pour ça qu'on s'adresse aux candidats.
Vous parliez tout à l'heure de la misère qui passe les frontières. Est-ce que vous arrivez à échanger beaucoup avec vos homologues des autres pays ?
Oui, on a des échanges, on se retrouve régulièrement à Bruxelles avec nos homologues pour examiner ces différentes situations et pour faire avancer également, à côté du volet budgétaire, l'idée que le droit à l'alimentation puisse être intégré dans le socle des droits sociaux européens, ce qui n'est pas encore le cas.
Puisque vous êtes avec nous, Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, vous nous avez dit tout à l'heure que le Fonds européen d'aide aux plus démunis représente un repas sur quatre pour les Restos du Cœur. Vous nous rappelez rapidement les autres financements. Il y a les dons, évidemment.
Oui, plus de la moitié des recettes des restos proviennent des dons de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est l'occasion, encore une fois, de remercier tous ces donateurs. Nous avons des recettes qui viennent grâce au concert des Enfoirés également, qui chaque année recueille un grand public sur lequel d'ailleurs France Bleu est partenaire. Et puis nous avons également, ça représente une somme moins importante mais c'est très symbolique, une très belle opération qui est l'opération 13 à table.
Oh, on connaît par cœur,
on
adore.
On en a parlé dans Une heure en France.
Non, mais vous pouvez en dire un mot quand même.
Voilà, où chaque année, une quinzaine d'écrivains font des nouvelles et puis avec une couverture illustrée par un dessinateur. Cette année, c'était le dessin de Plantu qui illustrait ce bouquin. Et c'est un très beau cadeau à faire. Et là-dessus, tout l'argent va au Restos du Cœur.
Je crois savoir qu'il y a déjà une prochaine publication qui est prévue, c'est dans les tuyaux.
Voilà, c'est sous embargo.
On n'en dit pas plus.
Frédéric Le Ternier est
renseigné.
Très bien renseigné. Une dernière chose pour revenir à ces élections européennes qui arrivent le 26, vous écrivez donc personnellement à tous les candidats,
oui,
à toutes les têtes de liste pour leur dire prenez des engagements,
oui.
Dites-nous avant que nous allions voter le 26 mai ce que vous allez faire pour l'aide aux plus démunis.
Absolument, et donc alors nous n'avons pas au Restos du Cœur de conseil signe de vote à donner, c'est à chaque électeur de regarder les réponses qui sont apportées dans les programmes et s'il retrouve dans ses programmes cette nécessité d'une Europe sociale.
Merci Patrice Blanc.
Le président des Restos du Cœur, France Bleu, je le rappelle, est partenaire aussi des Restos du Cœur et ça nous touche beaucoup. Merci de
votre
venue.
Merci à vous.
À bientôt. Les dirigeants des pays de l'Union européenne se retrouvent en Roumanie aujourd'hui, sans le Royaume-Uni, pour plancher sur l'agenda des 5 prochaines années.
Ah oui, parce qu'en principe, le Royaume-Uni ne sera plus là. Theresa May compare sa bataille avec Bruxelles à la remontada du club anglais de Liverpool face à Barcelone en Ligue des Champions.
Elle pourra aussi s'inspirer de Tottenham, qui, à la surprise générale, s'est débarrassé de l'Ajax d'Amsterdam.
Vous voulez vivre le but de la qualification version commentateur anglais ?
Here's Dele Alli, here's Lucas Moura. Oh,
Champions League. La finale de la Ligue des Champions sera 100% anglaise entre Liverpool et Tottenham, le club de Londres du capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris. Et le même scénario peut encore se réaliser en Ligue Europa avec Arsenal et Chelsea qui jouent ce soir contre Valence et Francfort.
Et sinon, en attendant le mondial de football féminin en France, Lyon s'est offert une 8e Coupe de France face à Lille.
Et les Lyonnaises vont jouer la finale de la Ligue des Champions le 18 mai face à Barcelone.
L'Europe encore après les Restos du Cœur, Erasmus et le football. Dans un instant, compare nos modes de vie entre France et Espagne au moment de la fête des mères et la fête des pères.
L'orchestre philharmonique de Radio France nous précède en Espagne. Il s'est produit à Madrid hier soir et sera à Saragosse ce soir sous la direction du chef finlandais Mikko Frank pour les 150 ans de la mort de Berlioz.
Thank you.
La symphonie fantastique d'Hector Berlioz, composée en 1830, jouée ce soir par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, en Espagne, où nous allons d'ailleurs dans un instant.
Ce midi, c'est Madrid, dans cette semaine et journée de l'Europe, avant un passage en Isère, où est né Hector Berlioz d'ailleurs.
C'est incroyable, vous avez bien renseigné sur l'Isère.
Et c'est comme ça, comment ça se fait. Et un passage à Nîmes, sur les traces de Pompéi. Voilà la météo du jour.
Francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.